que la Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Bonjour Madame Lebel.
Bonjour Catherine.
Bonjour Madame Lebel. Donc à compter de lundi, on revient pas à la formule régulière parce que vous l'avez expliqué hier, c'est une formule hybride. Donc il y aura encore du virtuel et du réel à compter de lundi.
Absolument. Disons qu'on ne revient pas à la formule traditionnelle. On va réouvrir de façon graduelle. Et une grande partie de cette réouverture-là va s'appuyer et baser sur le fait qu'on a créé dans les dernières semaines, très rapidement d'ailleurs, des salles virtuelles, donc des salles d'audience virtuelles où les gens peuvent se contacter à distance et faire le procès. D'ailleurs, il faut en être très fier. Hein, c'est juste Chanson de Trois-Rivières qui a donné le coup d'envoi de tout ça il y a quelques semaines dans un procès qui s'est déroulé totalement par le biais des technologies et le reste a suivi. Il a participé d'ailleurs, le juge Samson, à des formations à travers le Québec par la suite. Donc, il a été, dans les circonstances, un joyeux précurseur. Donc, oui, effectivement, ça va être une formule hybride. Donc, soit il va avoir naturellement du présentiel comme d'habitude pour certains dossiers, dans certains districts, dans certains cas. Et pour ça, on a adapté les salles de cours avec les mesures de sécurité sanitaire. Donc, limitation du nombre de participants en présence physique, distanciation, création de plexiglas d'endroits sur les greffes ou les endroits où la distanciation n'est pas aussi commode, disons-le, compte tenu de l'aménagement de l'espace. Donc, on a fait ça avec la santé publique, mais vous avez raison, la clé là, du succès de la reprise, c'est vraiment la mixité des moyens et des outils qu'on va avoir pour travailler là.
OK. Hier, de ce que je comprenais, parce que, bon, c'est tributaire de deux facteurs, donc de l'obligation de respecter, bien sûr, les consignes de santé publique, et ça peut varier, évidemment, d'une région à l'autre, dépendamment de la situation épidémiologique. Est-ce que ça veut dire, Mme Lebel, mettons, une région comme nous, la Mauricie, où on a été quand même touchés, beaucoup dans les CHSLD, mais plus qu'une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de réel au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'en Mauricie, ou pas nécessairement?
Pas nécessairement, parce que avec la santé publique là, est très confiante que si les règles de sécurité sanitaire ont été mises en place, d'ailleurs on a été accompagné par l'Institut national pour le faire, là, pour l'aménagement des palais de justice, sont respectées. Il n'y a pas plus de risque de sécurité dans une zone comme Montréal, à titre d'exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à Trois-Rivières, là, pour faire exemple. Donc, mais le choix là, de la technologie sera nécessairement aussi en fonction de la nature du dossier, parce que c'est pas tous les dossiers de justice qui, à ce stade-ci, se prêtent très bien à l'exercice d'être virtuel. On peut comprendre que dans un cas d'agression sexuelle, à titre d'exemple, c'est beaucoup plus délicat de faire témoigner la victime à distance du juge ou à la distance de du procureur de la Couronne que dans un cas au civil ou de petite créance où il n'y a aucun enjeu à tout faire de façon virtuelle. Donc, ça sera ce genre d'adaptation-là. Naturellement, s'il y a dans d'autres endroits, on a des craintes parce qu'on pense que la proximité sera plus grande ou parce qu'il y a plus de participants dans un dossier. Il y a des dossiers où il y a des co-accusés nombreux, hein, donc ça veut dire plusieurs avocats, plusieurs participants. Mais là, on pourra prendre des décisions de faire du semi-virtuel aussi, là. Donc, quelques participants en présence, quelques participants par le biais du web. Et ça va rester, Catherine, même après la crise sanitaire, ces outils-là. Ça fait partie de la transformation numérique, oui, le virage. Et si on peut trouver des opportunités à une crise, ben c'est bien celle-là. C'est que ça a donné l'opportunité à la justice de mettre le pied sur l'accélérateur. Là, puis et la nécessité, des fois, aide à forcer les mentalités, disons-le comme ça.
Oui, tout à fait, absolument. Je pense que ça force nos mentalités dans bien des créneaux. Et puis, en soi, des fois, c'est pas mauvais non plus. Dites-moi, qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif d'effectif? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont retourner au travail dans leur bureau, là, graduellement. Il y a des gens qui vont peut-être conserver le télétravail, dépendamment de leur situation. Est-ce que vous êtes fixé un objectif de pourcentage?
Bon, il y a peut-être, c'est toujours difficile de dire des pourcentages parce que ça va être au besoin. On pense qu'on pourrait avoir en présentiel à peu près 60% des effectifs du ministère de la Justice. Il y a des gens comme les greffiers audienciers, les greffières qui sont dans les salles de cours, naturellement les juges, le personnel de soutien. Mais vous savez, même le gouvernement en général va faire un virage vers le télétravail. Hein. On a constaté, encore une fois, ça a été un méga projet pilote au plan de l'organisation gouvernementale, là, cette pandémie-là. Et on donc, le télétravail, là, on a fourni, naturellement, c'était l'ajustement technologique qui était peut-être déficient au début de la crise, là. Mais on s'est rendu compte que les gens sont même beaucoup plus performant dans bien des cas. Donc, nous, on vise naturellement de ramener en présence ceux qui sont absolument nécessaires, qui sont en présence, mais les gens qui peuvent continuer à travailler à distance vont le faire. Okay. Si on peut penser que la rédaction du jugement par les juges, j'ai pas besoin de le faire dans leur bureau nécessairement.
Non, évidemment.
C'est peut-être trop évident, non? Mais okay. C'est pas de figure.
Madame Lebel, si on donne l'exemple de la cour criminelle, là, on a pris du retard de combien de temps à peu près?
Bon, ça, c'est très difficile à quantifier, Catherine. C'est pas parce que je veux pas le faire, c'est parce que c'est exact, très extrêmement. Puis si je le savais, je vous dirais que je serais la personne la plus heureuse parce que c'est beaucoup plus facile de savoir quelles mesures mettre en place quand tu connais l'ampleur de la situation.
Ouais.
Naturellement, on est encore en situation de crise. Donc, on revient graduellement. Donc, l'impact va encore se faire sentir pour un certain temps. Donc, on travaille, mais moi, j'ai bon espoir qu'avec les mesures qu'on a mises en place, le rythme qu'on reprend graduellement, on va passer à travers cette espèce de bouchon là, de dossier là qu'on va avoir créé, parce qu'avant d'entrer dans la crise, les délais en matière de criminels étaient sous contrôle. En matière de justice civile, il y avait des enjeux. Je le nie pas. D'ailleurs, on y travaillait sur d'autres moyens d'accès à la justice, les moyens alternatifs. Et ça demeure tout ça là.
Ouais.
Et on vient d'y rajouter une belle couche de virtuel qui va nous permettre de procéder. On a 136 salles virtuelles là, qu'on a créées au Québec. Donc, c'est 136 salles de cours qui ne sont pas attachées à un district judiciaire particulier. Donc, ça aussi, c'est très intéressant, là.
Absolument. Madame Lebel, en pandémie, on a remarqué différentes choses, notamment les signalements à la DPJ qui sont en baisse, ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne nouvelle en soi. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui vivent des choses tristes et tragiques. On remarque aussi que le taux de criminalité dans plusieurs municipalités a baissé. Est-ce que pour vous, comme ministre de la Justice, c'est-tu une inquiétude? Est-ce que le taux de criminalité est juste en dormance actuellement? Est-ce que vous vous inquiétez de ça?
Bon, le taux de criminalité, là, c'est toujours tellement relié à plusieurs facteurs. Puis on va être capable de comprendre, peut-être dans un an ou deux avec du recul, si le confinement a affecté les crimes ou le taux de criminalité.
Okay,
parce
je comprends.
Que tu l'as bien dit, hein?
Donc,
tu l'as bien dit, la DPJ, là, on pense qu'il y a peut-être des signalements qui sont peut-être pas faits de la même façon. C'est sûr qu'il y a des facteurs de stress pour le confinement. Il y a sûrement une certaine criminalité de violence peut-être personnelle, de violence conjugale, de violence familiale qui aura augmenté. Une autre, peut-être que les vols de véhicules ou les choses comme ça ont peut-être pendant un certain bout du confinement réellement diminué parce que même les voleurs étaient confinés. Là. À certains points, c'est difficile là, de voir parce qu'il faut faire la différence entre le taux de criminalité et la criminalité effective.
Et la criminalité, vous avez raison.
Voilà. Donc, ça, naturellement, on pourra, avec le recul, pouvoir être capable d'analyser l'effet réel du confinement. Et moi, je pense qu'il peut y avoir une espèce de modification du type de criminalité là, dans ces circonstances-là, plutôt qu'une diminution du taux comme tel.
Avant de vous laisser aller, je veux vous entendre sur le traçage. Hier, Québec solidaire qui demandait la tenue d'une commission parlementaire là, sur le recours à cette application. Vous avez rejeté la tenue d'une commission parlementaire, mais vous avez dit hier, on va encadrer. Si jamais on avait à le recommander, on va l'encadrer. Qu'est-ce qui sera important pour vous en termes de traçage?
Mais moi, ce qui est très important, d'ailleurs, j'ai un projet de loi qui va s'en venir en matière de protection de la vie privée, des renseignements personnels. Puis c'est une grande discussion, même canadienne. L'Alberta a même déployé sa propre application. Là. Ce qui est très important pour moi, c'est la notion de consentement. Au départ, si une telle application devient un outil essentiel ou nécessaire pour la santé publique, je pense que ce qui est important, c'est que cette application-là soit téléchargée par les consommateurs, par nous, les gens, les citoyens, avec le plein consentement éclairé des impacts sur notre vie privée. Parce qu'il y en aura toujours un peu, c'est normal.
Ouais.
Quand on s'abonne à Facebook, il y a un impact sur notre vie privée. Mais on l'accepte, cet impact-là, à quelques égards. Donc, il faut que le consentement, la clé de voûte de tout ça, c'est le consentement. Et maintenant, après ça aussi, c'est l'usage des données pour les fins de la santé publique, la destruction des données personnelles qui ont été accumulées par ces applications-là, qui sont nécessaires pour le traçage, pour le détectage, à titre d'exemple, parce que c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Il n'y a rien de décidé, mais l'évaluation se fait de façon très sérieuse. Donc, le fait que ces données-là devront être éliminées, détruites quand on n'en aura plus l'usage pour lesquels les gens ont consenti et s'assurer que le moins de données personnelles circulent, donc que ce soit anonymisé. Donc, tout ça, ce sont des balises très claires. La commission d'accès à l'information sera impliquée le cas échéant. Là, ne lisez pas dans mes propos qu'on est en train de déployer, là, mais on est en train d'étudier.
Okay.
Ça, c'est très clair parce que c'est la santé publique aussi qui devra nous dire si cet outil-là est nécessaire. Parce que
vous n'en êtes pas convaincue, Mme Lebel? Vous n'en êtes pas convaincue?
Ben moi, je n'ai pas à être convaincue de rien. C'est le docteur Arruda et la santé publique qui devra nous faire cette demande-là. Moi, je suis convaincue qu'on devra le faire dans le respect des droits personnels, par contre. Là, okay. Et c'est ça qui est mon travail présentement, d'être le chien de garde de la vie privée. Et à la table de discussion, ben, c'est mon propos au moment où on se parle.
OK, parfait. Mme Lebel, merci d'avoir été là ce matin. Bon week-end.
Hey, merci à vous. Bonne journée,
Catherine. Merci. Bye-bye. Sonia Lebel, ministre de la Justice, députée de Champlain.